tristes ensoleillées, tes montagnes et tes décors. Jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort.
Hong Kong, un port riche aux frontières de deux mondes et tout autour, des baraques entassées, des bidonvilles. Rio, une capitale ultramoderne avec des buildings et une route qui dessine son tracé futuriste sous un bidonville.
Actualité française, 1er septembre 1963.
C'est là un phénomène général, international. New York ou Moscou, les bidonvilles n'épargnent aucune capitale, Paris pas plus que les autres. À Nanterre ou à La Courneuve, les bidonvilles ressemblent à ceux de toutes les latitudes, ils se ressemblent tous. Quelques planches mal jointes, des toits faits de n'importe quoi. Sur un terrain vague, des hommes venus en masse travailler dans la région parisienne ont fait naître ces cités misérables. Africains du Nord, Portugais, Espagnols et aussi des Français. Si le gîte est précaire, du moins il est bon marché. Et dans ce souci d'économie, on peut trouver une des raisons d'être du bidonville. Une seule fontaine pour toute la triste agglomération. C'est le rendez-vous des enfants. La corvée d'eau remplace souvent l'école. On vit entre soi. Des commerçants ont ici leurs éventaires à la mesure et à l'image de l'habitat. Ainsi vivent dans les conditions de la misère des centaines de familles aux portes de la grande ville. Insouciants, des enfants meublent ce décor sans espoir de leur jeu sans fin.
Comment c'était ce bidonville? Comment c'était conçu? À quoi ça ressemblait?
Quand je suis arrivée, c'était qu'un amas de planches et de papier goudronné. Papier goudronné, c'est un papier qui est très fin, qui se déchire très facilement, qui est, comme son nom l'indique, avec du goudron pour imperméabiliser. Et puis, c'était des bouts de planches. Ça devait faire une trentaine d'hectares. Oui, c'était une ville dans une ville. Voilà, c'était un bourg. Autrefois, c'était des champs, des trucs de maraîchers qui avaient été abandonnés. Et j'avais toujours l'impression, quand j'arrivais au bidonville, par exemple, de sauter d'un continent à un autre. Parce que, à part ceux de mon équipe, à part quelques toubibs, sinon jamais personne rentrait. Aucun Français veut rentrer.
Ou presque aucun Français ne rentrait dans le bidonville de Nanterre, et pourtant, Monique Hervault le souligne, il était tout à fait visible. Georges Semprin, qui a disparu il y a quelques temps, ne manquait jamais de rappeler qu'à la libération du camp de Buchenwald, il a été libéré de ce camp, et il est entré dans une maison, dans un village voisin, et là il a constaté que depuis les fenêtres des habitants du village, eh bien on avait une vue parfaite sur le camp. Et les gens vivaient là depuis toujours, sans savoir, disait-il, que il se passait ce qui se passait dans le camp en face. Il n'avait pas remarqué, il n'avait pas vu, il ne s'était pas posé de questions. C'est un petit peu ce qui s'est passé à l'époque dans ce bidonville de Nanterre. Aujourd'hui, les bidonvilles sont de retour dans la France de M. Guéant, de M. Sarkozy et du Fouquet's. Là, on évoque ceux de la fin des années 50 à Nanterre, en France.
Donc quand vous êtes arrivé en 59, en août 1959, il y avait 10 000 personnes dans le bidonville. Ces familles, elles venaient d'où?
Alors, au départ, c'était tous des gens des Aurès, des montagnards donc, et il y a eu, alors d'autres régions, il y avait des Kabyles. Moi j'ai vu des Algériens arriver ici, là-bas ils mangeaient de l'herbe. Manger des glands, c'était la famine. Il y avait non seulement ça, mais il y avait la guerre. Il y avait des femmes, elles avaient perdu 3, 4, 5 membres de leur famille tués, torturés devant elles. Il y avait les camps de regroupement. les camps de